Louis Aymon, le messager. Monsieur Ajardon Ashford est assis dans ce cabinet de travail de sa maison de Golders Green et il écrit une lettre au Times. Tous les matins, il s'installe ainsi devant son vaste bureau de chêne, s'immobilise de longues méditations, préparant les épîtres solennelles qu'il envoie périodiquement au Times, au Daily Telegraph et au Morning Post. Il écrit lentement, le sourcil froncé. Devant toutes ces catastrophes, la même pensée vient à tous les hommes de bon sens. Cela valait-il la peine ? Toutes ces vies sacrifiées amèneront-elles moins un peu de progrès réel, quelques résultats pratiques, un essor nouveau de l'industrie ou du commerce? À cette question, tous les hommes de bon sens répondront « Non !» Et M. Agermon Ashford s'arrête là, et relit son papier, dernier paragraphe. Il est satisfait. Il pourrait pourtant se souvenir d'avoir envoyé au Morning Post, il y a une vingtaine d'années, une protestation du même genre sur les premiers vélocipèdes, ces machines indécentes et grotesques. Et voici à peu près 10 ans, une protestation du même genre sur les automobiles. Et maintenant, il se sert de taxi, automobile, plusieurs fois par semaine. Maintenant, et il projette de donner une bicyclette à sa fille Betty pour son 14e anniversaire. Mais que la même accoutumance puisse jamais se produire pour l'aviation, l'idée est ridicule. Son regard sort un instant par la fenêtre qui donne sur le jardin. Le soleil joue sur les plates-bandes multicolores, et au milieu de la pelouse, Betty, assise, est en train de travers sur un fauteuil de toile, un livre sur les genoux, balançant ses jambes grêles de fillette, qui appuie au dos sied sa tête aux cheveux couleur de froment et les yeux vers l'air ensoleillé où volent des mouches éperdues. Monsieur Agermon Ashford contemple quelques minutes ce spectacle charmant et on est tout attendri. Tant de paix champêtre à un quart d'heure à peine de Londres. Il poursuit. Non, le vol ne sera jamais qu'un tour de force, inutile et dangereux. Un jeu de fou. Dans le jardin, Betty rêve. Lorsqu'elle est seule, elle lit ou elle rêve. Et elle est souvent seule. Sa mère est morte il y a déjà longtemps, morte d'avoir quotidiennement entendu M. Agermon Ashford discourir sur le monde et la vie. De sorte que Betty passe de longues heures dans le jardin, quand il fait beau, un livre ouvert sur les mains, entre les mains. Elle en suit avec avidité les péripéties chères touchantes, la course romanesque d'amours purs et distingués, et elle rêve. Il y a souvent un héros dans son rêve. Il est loyal, chaste et tendre. Oh, ce n'est pas le mauvais sujet des romans, ni l'étranger à moustache noire qui incarne le vice et la débauche. Non! C'est un anglo-saxon splendide. Il a 6 pieds de taille, pas un pouce de moins, un menton carré et des yeux de glace. Devant sa juste indignation, l'on voit trembler et fuir les continentaux pervers qui avaient osé jeter les yeux sur l'héroïne. Quelque part dans le jardin, il doit y avoir un frelon, car l'on entend bourdonner. Betty le cherche en vain. Des yeux, puis renverse de nouveau la tête sur le dossier du fauteuil, et voici que tout à coup, elle reste figée. Les yeux grandis, grands ouverts, la bouche entr'ouverte aussi, formant un oh qui oublie de s'échapper à 1 000 mètres, en plein ciel, presque au-dessus d'elle, un aéroplane passe. Elle sait que c'est un aéroplane, bien qu'elle n'en ait jamais vu. Cela ressemble à une colombe aux ailes blanches étendues, toute petite dans le bleu du ciel, et qu'on devine grande, pourtant très grande. Betty s'émerveille, mais ce n'est qu'au bout d'un instant qu'elle songe à ceci, qu'elle avait oublié. C'est un homme qui est là-haut. Un homme. L'idée lui donne le vertige. Oh non, pas le vertige qui fait peur, mais un vertige glorieux et doux d'adoration. Que voit-il de là-haut, ce grand frère des Alouettes? À quoi songe-t-il, ce demi-dieu qui a reçu le ciel pour sa part d'héritage? Et navigue l'air ensoleillé, cherchant loin du sol l'immense colombe. Le soir tombe, le ciel couleur de saphir devient couleur de turquoise. Tout à l'heure, des petits garçons passaient en courant dans la rue, criant les dernières nouvelles des journaux du soir. Un aviateur français vole au-dessus d'Epsom et de Golders Green. Dans son cabinet de travail, M. Hagemon Lachache écrit d'abondance, une rougeur d'indignation aux joues. Le péril est imminent, car l'impudence de l'aviateur, adulée par une presse servile, s'accroît d'heure en heure. Aujourd'hui même, un homme, ce n'est pas juste, c'est pour nous une satisfaction de savoir que ce n'est pas un Anglais, est assez fou et assez coupable pour passer au-dessus de ces quartiers paisibles, menaçant des vies entières, celles de nos enfants, nos maisons, nos jardins. Mais qu'attend-on pour intervenir? Betty a oublié de ramasser le livre tombé sur la mousse. Elle a repris son rêve, interrompu. Mais voilà qu'il y a maintenant quelque chose de changé dans ce rêve. Le héros qui est en route ne se présentera plus monté sur un cheval fougueux, mais bien sur un monoplan aux vastes ailes. Elle ne songe plus aussi impérieusement qu'autrefois qu'il soit conforme à son idéal, parce que tel qu'il sera, il descendra du ciel, et qu'il ne faut pas trouver à redire, messager divin. Il est auréolé de gloire, et beau de la beauté de ceux qui ne sont pas esclaves de la terre. Et miracle des miracles, c'est un Français.